écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 18 décembre 2010. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Zarma Farai et à 17h FMR 7 l'antenne à Booster FM pour les 4, sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le téléachat de Noël que vous attendez tous.
On va y aller soft, hein, je pense. Ouais, c'est la fin de Noël, de l'année, tout, tranquille.
Les cadeaux, le caviar, les foie gras. Oh, pardon.
Pas encore, heureusement. Heureusement.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Rich et la participation exceptionnelle de
du Père Noël. Faudra bien qu'un jour on refasse tout le reste. Impact spécial. Oh, c'est.
L'enfoiré éternel. Breaking Bad, d'accord.
Donc okay, on en reparlera tout à l'heure.
Ok, on TV. Donc, du sport est en train de nous montrer le magazine Impact, mais je croyais qu'Impact maintenant c'était devenu juste un fascicule en plus de Mad Movies.
Non.
Il est redevenu magazine à part entière.
Non, tu peux l'acheter à part de nouveau là.
Ah, de nouveau, d'accord.
Oui.
Bon, c'était transitoire. Enfin bon, c'est un petit peu la fin de la presse papier, je veux dire.
Non, parce que bon, il y a quand même un article à l'intérieur dont je voulais vous parler, mais bon, on verra ça plus tard.
Ah, the teasing.
Plein de choses, notamment, on va faire un petit peu une rétrospective, je vais dire, de l'année. Rétrospective entre guillemets, puisqu'il s'agit de faire, des suggestions d'achat pour les petits cousins, petites cousines, petites neveux, petites nièces, et oui, on grandit. Et plein d'autres choses. On a aussi appris une mauvaise nouvelle avec la mort d'un monstre sacré du cinéma cette semaine.
Julien Guillaumard.
Non, je pensais à un réalisateur.
Ah, Black Edwards.
Non, je pensais à un français.
Jean Rollin.
Voilà. On a fait les trois d'un coup en une seule blague. Et on est content, et c'était que de l'impro en plus. Puisque Black Edwards, du sport, va forcément en parler, je pense.
Ah bah, oui, comme ça, vite fait. Hein.
Vite fait, voilà.
Ouais, j'ai rien préparé.
Jean Guillemard aussi, je pense. Et Jean Rollin, on a la bio, donc c'est un petit peu difficile de passer à côté. Surtout que c'est l'une des personnes dont personne ne va parler. Je crois que la Dépêche. La presse quotidienne locale en a parlé,
oui.
En reprenant en fait un article d'un site spécialisé d'information cinéma. Ça a été une quinzaine de lignes et j'ai été extrêmement déçu. Et c'est un des c'est Alex Ilembo qui est l'un des collaborateurs de Libération dans écran.fr, qui font un excellent podcast d'ailleurs, qui disait que sur son tweet que la Wikipédia anglaise avait plus de respect envers Jean Rollin primo parce que ça a été les premiers à mise à jour et ensuite parce que la page de Jean Rollin est nettement plus fournie. C'est vrai que c'est impressionnant de ce côté là quoi qu'il y ait un français, j'ai oublié son nom, qui fait en sorte que tous les films de Jean Rollin aient des notes de production extrêmement conséquentes. Et c'est vrai que celle, on en parlera tout à l'heure, du viol du vampire ou même de la plupart des films que Jean Rollin a fait sous commande, commence à être vraiment costaud et tout ça, sauf le lac des morts vivants. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Vous comprendrez pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à annoncer? C'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont passées un petit peu vite pendant notre période d'absence. Mais néanmoins, pour une fois, la bande dessinée va vous être présentée par Thomas.
De suite, là
Non. D'abord, je change de disque. Tu me laisses 10 secondes. Allez.
We'll be right back.
Oui, parce que pour une fois, les sorties BD, c'est Monsieur Ultimatum qui le fait à ma place. Et ma foi, tu as un arrivage.
Non, mais c'est marrant parce qu'ici, dans l'émission, on s'intervertit les domaines. Alors, du sport, il parle de films, il parle de bande dessinée. Moi, je parle de bande dessinée, des fois de séries. Et il n'y a que Xavier qui dit non, moi, je ne touche pas aux autres. Moi, je suis pur, je ne me ferai pas contaminer par les domaines des autres.
Oh, j'ai quand même parlé de séries télé ou de cinéma et pas qu'une fois.
Ah ouais, tu parles du talk show surtout, les talk show US. Alors, aujourd'hui, on commence la partie bande dessinée avec justement une BD au format fascicule comics. Alors, je sais pas comment. C'est fascicule, c'est ça ?
En fait, c'est un comics en Trader Back. Et d'ailleurs, on voit la pub un petit peu partout en ville.
Oui.
Mais en tout cas, c'est plus style revue, quoi.
Voilà, donc ça s'appelle Remington. C'est sorti par Ankama. 3,50€ en kiosque. Et c'est donc un périodique. Hein, ça va être le prochain, ce sera en février, donc c'est une aventure qui se suit. Or, c'est pas vraiment en format comics avec plusieurs aventures de plusieurs personnages. Là, c'est un seul personnage. C'est scénarisé par Toth et dessiné par Adrian. Et donc, ça raconte l'histoire de Remington. C'est un voleur d'exception. Il s'appelle Remington Smith.
Ça me rappelle Remington Stiles, mais à mon avis, non. Pardon, on parle de série. Je peux pas.
Et donc Remington Smith avec son frère qui s'appelle Granny. Donc ce sont deux voleurs d'exception masqués et ils font partie de la classe des roublards. Donc si je vous dis ça, ça veut dire que vous pensez où Ankama, Dofus, Wakfu, et tout à fait, puisque ce sont la classe des roublards, on peut les retrouver dans le jeu multi-univers Wakfu et Dofus. Donc on suit justement les pérégrinations des deux frères voleurs qui sont mandatés par une belle et mystérieuse commanditaire pour aller récupérer des objets, sauf que ils auront besoin des armes, des chouchous de Rouchou qui s'appellent les chouchous. Et si vous connaissez un peu l'ambiance de Dofus et Wakfu, vous savez que l'arme de Tristepin dans le dessin animé Wakfu, c'est Rubilax, et c'est un des chouchous. Donc c'est marrant parce que il y a Remington qui arrive et qui voit qu'il y a un sac, il dit « je vois que tu parles à ton sac », et là t'entends « Oh, ça va, doucement, bouge ton cul, toi, arrêtez de gueuler dans mes oreilles », en fait, il sort plein d'objets qui sont animés par des esprits, donc ils ont tous un œil un peu bizarre, voilà, et donc les deux frères ont des capacités spéciales, donc Granny, son frère un peu plus costaud, il est plutôt spécialiste du combat rapproché, alors que Remington, c'est vraiment l'art de se glisser derrière l'adversaire, à pas de loup, tu l'entends jamais, c'est vraiment le petit rotor. Et donc il faut savoir que leur ancêtre qu'on voit apparaître dans le manga Dofus, il s'appelait Will Smith. Donc voilà.
Enfin bon, on sait de toute façon tout l'univers de Dofus, enfin d'Ankama en général, c'est forcément bondé de références très 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 jeux de mots-esque. Hein.
Voilà, donc voilà. C'est le look, c'est on va dire colorisation un peu à mi-chemin entre du comics et de la BD, plutôt BD traditionnelle franco-belge, sans gros nez, mais voilà, moderne, style soleil, style Ankama en fait. Et à la fin, on a des présentations des classes que l'on voit apparaître dans la petite historiette, puisque à chaque fois qu'il croise un personnage, il fait partie d'une classe spéciale, et donc on raconte, oui, alors lui c'est un écaflip, alors son type de sort c'est ça, l'apparence, les forces, les faiblesses, qu'est-ce que c'est qu'un chouchou, alors ils vont montrer les exemples d'armes qu'on peut trouver dans la petite histoire. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas familier de l'univers Wakfu Dofus, c'est vrai que ça va être un peu hermétique, mais ça va, on arrive quand
chouchou,
même à...
c'est un familier.
Non, justement, les chouchous, ce sont des créatures issues de Rouchou. Rouchou, c'est un démon, et en fait, c'est des créatures un peu de mi-démoniaques. Alors, il faut les apprivoiser, ce qui est un peu le cas de Tristepin avec Rubilax dans la série Wakfu, où justement, il peut laisser apparaître tout le pouvoir du Rubilax, et par contre, c'est au risque de devenir un monstre aussi. Donc voilà. Remington, ça reste assez c'est correct, c'est rigolo, les personnages sont sympas, tu penses que on voit qu'il y aura quand même du potentiel dans l'avenir. Voilà, donc scénarisé par Toth et dessiné par Adrian, et c'est sorti voilà en décembre, c'est tout frais.
Je sais pas, du sport, il a pas l'air très concerné. Bon.
Ensuite
On passe à un tout autre univers avec un bouquin qui était annoncé depuis un bail, hein, puisque cette, on l'avait vu depuis très longtemps, on l'avait vu l'an dernier.
Bah, c'est surtout que c'est moi qui ai du retard, parce que là je l'ai lu il n'y a pas longtemps, je me suis dit tiens, on ne l'a pas chroniqué dans l'émission, donc on va en parler. Il faut savoir qu'il est sorti cet été, hein. Donc c'est, voilà, c'est un peu chroniqué en retard. Donc ça s'appelle Zombielennium, le tome 1 s'appelle Gretchen, et c'est scénarisé et dessiné par Arthur Depin, à qui on doit Les Péchés Mignons, bon, son style est aisément reconnaissable. Vous avez certainement croisé ses bandes dessinées. Alors cette bande dessinée est éditée chez Dupuis, et ça raconte donc un parc d'attractions qui s'appelle Zombielennium, qui n'est pas très original, donc train fantôme, spectacle de chorégraphie à la Thriller, momie, vampire, maison hantée par des squelettes, bon voilà, c'est pas très original, il y a Disney qui fait ça aussi. L'originalité, c'est que les créatures sont d'authentiques morts-vivants, employés forcément pour l'éternité, dans un parc tenu par la poigne de fer de Francis Von Blott, qui est un vampire. Alors, justement, on commence l'histoire par Aton, la momie, qui ne rêve que de retourner sous le soleil égyptien, surtout depuis qu'il est relégué à la simple vente de Barbapapa dans le parc. Mais alors qu'il est ramené en voiture par son boss, et le squelette Sirius Black, qui, on le voit pas forcément parce que c'est un squelette, mais c'est un ancien militant pacifiste noir, les trois loustiques, voilà. Les trois loustiques renversent Aurélien, un jeune cocu paumé en plein braquage de bistrot. Alors que faire de ce cadavre tout chaud? Donc forcément, future nouvelle recrue.
Recrute.
Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? On le fait mort par un vampire pour qu'il devienne un vampire. Mais le loup-garou, il est pas d'accord. Ah non, loup-garou, crrr. Ah non, vampire, crrr. Non, loup-garou, crrr. Alors il se retrouve avec une quinzaine de morsures dans le cou. Et si on le laissait choisir? Ah ouais, c'est pas mal. Allez, on le réveille. Donc voilà, vous voyez un peu le style d'humour. Donc voilà, c'est dessiné par Arthur Depin, donc c'est du vectoriel, je vous le montre, voilà, je vous fais passer la BD.
Oui, puisque Arthur Depin ne bosse plus sur papier depuis un bail,
oui.
Ça date d'ailleurs d'avant la production de son film là sur les crabes, je crois, ça fait un bail.
Ouais, le style d'Arthur Depin, c'est à la fois super propre et super mignon quelque part, parce que les personnages ont une bonne bouille et c'est vrai que le style vectoriel permet d'avoir un rendu assez sympa. Le petit souci, c'est que parfois sur des décors et tout, les images sont entre deux, c'est-à-dire qu'elles sont suffisamment travaillées pour faire joli et elles sont quand même super épurées, donc c'est parfois, je trouve que ça manque un petit peu de pêche, ça fait un peu pauvre, mais finalement c'est un style et tu t'y habitues. Le style de narration, c'est super classique en fait, ce sont des cases quadrillées, donc pas une case plus large que les autres et tout, et c'est vrai que le style de
C'est vrai que c'est le gros problème d'Arthur Depin, hein. Il sort pas de son gouffrier.
Bah, c'est pas vraiment un problème, puisque justement là, je vois pas trop ce que ça aurait pu apporter d'avoir des cases complètement déstructurées. C'est vrai que là, le découpage en damier presque, deux colonnes avec quatre rangées de cases, ça fonctionne super bien, et puis ça permet aussi de mettre tout l'accent sur la scénarisation et sur les gags qui sont assez rigolos. Par exemple, il y a une assemblée générale des actionnaires du parc pour essayer de renouveler l'intérêt de ce parc, parce que ils se disent, vous vous rendez compte, on est 26e sur les 28 parcs de ce pays, on est même dépassé, on était au départ dépassé par le Futuroscope, mais vous vous rendez compte, Vulcania fait plus d'entrées que nous. Voilà.
Oui, donc, c'est pas mal.
Donc voilà, c'est assez rigolo. On voit qu'il y a une grève dedans, parce qu'on voit qu'Aurélien, le fait qu'il était mordu à la fois par un loup-garou et par un vampire, c'est pas... Non, ça va faire un cocktail assez détonnant. Il va prendre un peu piquer la vedette au monstre établi depuis pas mal d'années dans ce parc, donc il va y avoir une grève, il va y avoir des prises de parole un peu rigolotes aussi. Le tome 1...
Intersyndical des zombies.
Voilà.
C'est pas mal.
Et voilà, et donc sachant qu'il va se faire une petite copine qui est une stagiaire dans le parc, et on sent que la stagiaire elle a un passé derrière elle, et on sent qu'elle est pas là par hasard, elle enquête aussi, on sait pas sur quoi. Voilà, donc le tome 1, donc ça s'appelle Gretchen, donc c'est le nom de cette stagiaire là. Il y a un énorme potentiel derrière, parce qu'on sent qu'il peut raconter pas mal de choses dans les prochains tomes. C'est assez rigolo, moi je suis fendu la poire, franchement. Zombielennium de Arthur Depin, édité chez Dupuis, le tome Gretchen, et c'est sorti depuis l'été dernier.
Et ça a de la gueule, quoi.
Voilà.
Grand format chez Dupuis, ce qui est plutôt rare, hein, quand même, chez cet éditeur. Alors comme vous le savez, c'est la troisième année consécutive que le Conseil Général de la Charente demande à des collégiens s'ils veulent faire partie d'un jury pour remettre un prix à des dessinateurs de BD. C'est un prix des lecteurs donc, qui est décerné par des collégiens, qui est en dehors du circuit officiel des prix du festival d'Angoulême.
Alors ce ne sont pas n'importe quel collégien, ce sont les élus du Conseil Général des Jeunes de Charente. Hein. Voilà. Ils sont déjà élus par leur père avant de remettre ce prix.
Voilà, tout à fait. Ce qui fait que, en fait, ils ont déjà une conscience politique et tout ça. Vous le savez sur notre antenne parce que les deux premières remises de prix ont eu lieu dans le Super en week-end. J'espère pour le troisième.
En direct,
ouais. J'espère pour le troisième. On les a fait discuter et tout. Et en général, on a fait en sorte que. On a un petit peu réussi à avoir à chaque fois les auteurs qui soient présents ou au moins les éditeurs pour qu'ils remettent leur prix. C'est ActuaBD qui co-organise ça avec le Conseil Général de la Charente, ce qui fait que, en général, la deuxième partie de l'émission se déroule avec un débrief pendant le festival par les rédacteurs d'ActuaBD. On va essayer de remettre ça cette année. Je ne garantis pas que ça se fasse, mais en général, on a une présélection parce que tous ces bouquins, en fait, les 5 bouquins qui sont choisis en finale par, par la rédaction, les 5 bouquins que l'on transmet au jury sont pré-choisis, excusez-moi, par la rédaction d'ActuaBD. Et j'ai fait un petit peu en retard ma présélection. Je regrette que ça soit un petit peu en retard. Cette année, j'ai choisi le Freaks Kill de Florent Maudou chez Ankama Édition.
Oui, sur l'école de super-héros.
Sur l'école de super-héros, voilà. Enfin, qui en fait est une école de super-vilains avec plein d'allusions graphiques dans tous les sens.
Départ, ouais.
Voilà, ce qui est plutôt bien foutu. Bakuman, qui est en quatrième de Oba et Obata chez Kana, tout simplement pour sa description assez hallucinante du milieu de l'édition manga et des éditeurs de manga, du moins le manga mainstream, où on a vraiment une description en fait d'une trame scénaristique et l'application de cette trame scénaristique. On est vraiment scotché par ce côté-là parce que c'est vraiment bien amené. Qui plus est, c'est une série d'une très haute tenue et qui est sans concession hein, quand même vis-à-vis de son propre éditeur. Donc ce serait dommage de passer à côté. Le Pluto de Naoki Urasawa, qui est l'adaptation d'une histoire de Astro, le petit robot.
Astro Boy. Hein,
voilà, Astro Boy. Chez Kana. Parce que c'est un très bon polar. Noir, mais pas trop. C'est-à-dire que ça reste présentable à des collégiens, à mon sens. Et c'est vraiment mené d'une manière hallucinante. On reste étonné. C'est-à-dire qu'on a des combats titanesque de robots avec tout le côté, je vais dire, héroïque, avec des superlatifs dans tous les sens. Puis d'un autre côté, on a un vrai polar, un polar qui est mené par un policier allemand avec toute la rigueur allemande. On se croirait franchement dans les très bons téléfilms que l'on a.
Il s'appelle comment le policier ?
Gesicht.
Gesicht.
Gesicht. Mais en plus, j'ai vérifié sur mon. Ou alors Wikipédia fait la même erreur que moi. C'est vraiment très bien mené là aussi, avec une excellente politique de traduction et d'adaptation chez Kana. Tortuga de Vioza et Brivé chez Ankama Édition, parce que ça revisite côté fantastique le mythe, je vais dire, des pirates sans que ça tombe, je vais dire, ou n'importe quoi que nous a habitué la série des
Pirates des Caraïbes.
Pirates des Caraïbes, oui, excuse-moi, je l'ai fait un petit peu vite cette sélection. Comment ça, j'ai copié-collé sur ta liste ?
Oh, il y a deux albums qui diffèrent, mais sinon.
D'après toi, quel est le premier ?
Bah, j'ai le conducteur sous les yeux.
Donc, tu sais que c'est Black Sad, Canales et Guarnido, parce que voilà, Black Sad, c'est une série qui est rare, quand même, mine de rien, mais dont la beauté plastique et l'histoire est absolument phénoménale.
Moi, je suis plus épaté par la beauté graphique que par l'histoire, mais après.
Pour moi, c'est d'un très, 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 très haut niveau. Et puis voilà, donc pour moi, ce sont 5 bouquins qu'on peut offrir les yeux fermés à des jeunes à partir de 4e, c'est-à-dire à partir de 13-14 ans, sans problème, parce que ce sont des histoires qui sont riches, qui apprennent la lecture vis-à-vis de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'on la lit en une fois, mais on revient dedans parce qu'il y a des détails qui sont cachés, ce sont vraiment des histoires qui sont riches, qu'on n'est pas dans la facilité de la bande dessinée gros nez Je suis désolé hein, pour Becca et tous les autres, mais c'est-à-dire que justement à partir de là, bah, on a une culture graphique à appréhender et on sort, je veux dire, purement du feuilletonesque absolu. C'est-à-dire que c'est un bouquin que l'on relit 10 ans après en se disant, moi je pense que quand ils auront 23 ans, ils les reliront tout simplement pour les... pour la culture qu'ils auront acquis d'ici là et justement les... Ah d'accord, c'est en référence à tel truc. Toutes ces références-là remontent là. C'est vrai que moi aussi, il y a des bouquins que je me suis acheté quand j'avais 15 ans et que je les relis en ce moment, justement, 20 ans après, pour toutes les références qu'il y a derrière. Du sport, tu veux peut-être commenter la liste dessus ?
La liste là ?
Ouais.
La liste dessus.
Oui, oui, d'accord, ok. Bon, bah.
Voilà.
Ok. Bah, moi j'en ai lu 2 sur 5, hein, donc 3 même. Donc, bon, ça va être un petit peu dur. Le Bakuman tome 1, j'aimerais bien l'avoir parce que, bon, moi je te rends le tome 3 parce que.
Ah, merde,
c'est, c'est pas trop intéressant de commencer par le numéro 3.
Ah, mais tu l'as pas lu, j'espère.
Bah non. Forcé quoi.
Ah, mince. Bah, je crois que c'est voilà, toujours quoi. Thomas qui les a.
Non, je te les ai rendus. Hein. Moi j'ai le 4 juste.
D'accord, ok.
Le trafic de BD. Alors moi,
ça va faire plaisir aux attachés de presse.
Moi, il faut dire que les trois, bah, c'est les trois premiers hein, que j'ai lus de toute façon, quoi. Donc ça va, il y a pas de problème. Hein. Black Sad, bon, moi, je suis assez d'accord avec l'opinion de Thomas, hein, qui dit que bon, au niveau de l'histoire, ben, on est un petit peu en deçà. Bon, c'est quand même une histoire qui est assez riche, hein, il y a pas de problème. Mais il y a un petit quelque chose qui manque. Par contre, au niveau graphique, là, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est vrai que là, ok, bon, on en prend plein le visage, pour rester poli. Le Tortuga en deuxième place et tout, c'est pas mal aussi. C'est vrai que c'est le genre de BD dont on n'a pas l'habitude. On a
graphiquement,
un
par le
graphisme qui est très intéressant. L'histoire, je trouve, de Tortuga est nettement plus intéressante que celle de Black Sad, si tu veux, pour moi. Mmh. Bon, bah, c'est vrai que c'est pas du tout le même contexte. Black Sad, c'est plutôt l'ambiance polar, l'ambiance...
Amérique des années 50 voilà. Et tout ça. Oui.
Alors que Tortuga, bon, bah, ok, quoi, on voyage. Hein, on est parti dans un monde pas possible et tout, avec en plus...
Les forces occultes,
enfin tout ça.
Enfin, bah, quand ça non, commence, ça commence à basculer quand on découvre le fantastique des navires.
Voilà.
Et là,
mince, c'est ça. Et là, on se dit, ouais, ou là, bon, c'est plus... Pas mal, c'est pas mal la claque dans la gueule quand même. Et on se dit vivement le tome 2, tout simplement. Quoi. C'est ça, on attend parce qu'on se dit, bon, bah, le tome 1, bah, il a l'air un peu léger.
Oui, c'est ça, ça
on
plante
se dit,
l'ambiance.
Ah zut, ça s'arrête déjà. Bon, bah, il va falloir attendre le tome 2. Bon, bah tant pis.
Et puis Vioza, on l'a eu par téléphone pour une interview. Et c'est un scénariste qui est franchement talentueux de ce côté-là. Il sait mener son monde et c'est un plaisir. Bon, plutôt. T'es comme moi, t'es comme Thomas, tu connaissais Astro Boy, mais la manière dont c'est revisité.
Ah ouais, non, mais c'est là que tu vois qu'ils sont très forts, quoi.
C'est incroyable. C'est d'un autre côté, c'est quand tu arrives à la fin du tome 1 et qu'on te dit, ah ben lui c'est Astro, t'y crois pas. Et tu te dis, oh merde. Quand t'es pas prévenu, c'est un bonheur. Et là, du coup, bah, tu as tout un monde que tu redécouvres et tu te dis, c'est gigantesque. Et justement, y a aussi toute cette teinte politique, puisqu'on fait plus ou moins référence à la guerre en Irak. Et d'un autre côté, à l'opinion bien pensante des super nations, c'est-à-dire des très grandes puissances, de l'ONU et tout ça. Et puis d'un autre côté, à la manipulation et au drame humain qu'il y a derrière dans les guerres. Et là, waouh, ah ouais, d'accord, ok. Le Bakuman, c'est pour la découverte de l'univers du manga. Et là aussi, c'est faut pas oublier que derrière, c'est les auteurs de...
Death Note.
De Death Note qui sont derrière, je reprenais ma respiration, mais qui vraiment se remontrent une fois de plus, vraiment comme des auteurs de polar.
Tu te rends compte que tu es en train de recommander ta propre liste là.
Oui, je sais, mais c'est fait exprès, c'est quitte à reprendre en arrière. Et puis Freak Squeal, vraiment pour le côté fantastique, humoriste et d'un autre côté, tous les petits détails qu'il y a dans un BD qui fait qu'on ne le lit pas qu'une seule fois. Donc voilà, bon.
Ouais, parce que si tu veux, si ça s'adressait, enfin, si c'était pas une liste qui était destinée à des collégiens, donc où il faut bon, quand même prendre un petit peu de...
Ben au départ,
on sait pas trop.
La première sélection, on avait pris des pincettes et on a été surpris quand même,
justement.
Hein, par le résultat du jury.
Moi, ce que j'aurais
donc
bien
maintenant,
mis, c'est.
Maruta 454.
Voilà.
Ouais.
parce que bon, l'histoire est passionnante, c'est une claque dans la gueule.
Surtout que c'est un pan d'histoire qui est très peu connu.
Oui, oui.
Voilà, enfin qui n'a jamais été avoué.
Bah, c'est-à-dire
que l'on sait, mais qui n'a jamais été avoué.
C'est peu connu parce que c'est tellement dégueulasse que bon, il vaut mieux pas en parler. Les gens qui l'ont subi ont préféré oublier. Les tortionnaires ont préféré oublier également. Les passer à la trappe et tout. Ça peut se comprendre. Hein. Ce sont les pans de l'histoire qu'on préfère laisser de côté parce que ce sont des pans de l'histoire qui sont très peu glorieux. Et outre le fait que l'histoire est absolument excellente et passionnante. Eh bien, moi je trouve qu'au niveau du graphisme, là vraiment ça pète très très haut, quoi. Je trouve que bon, là c'est vraiment excellent. C'est très spécifique, c'est un dessin très particulier. C'est surtout dans le domaine des ombres, les noirs, tout ça, que là le mec il fait très très fort. Là vraiment, moi j'aurais mis ce bouquin sans problème.
Surtout que c'est une création originale de Chiao Pan, c'est-à-dire que c'est un dessinateur chinois qui a bossé sur le scénario d'un Québécois, d'un journaliste québécois qui est spécialisé dans la Seconde Guerre mondiale. Et Chiao Pan a montré une fois de plus que de ce côté-là, il y a des œuvres originales en dehors des a priori vis-à-vis à la fois de la censure et de la culture officielle et tout. Non, loin de là. Et les auteurs qui sont formidables, ils demandent qu'à éclater. Et justement, Chiao Pan fait un boulot éditorial formidable. Thomas, tu avais peut-être les deux autres bouquins que j'avais écartés par rapport à ta propre sélection. Tu souhaites rajouter ?
Non. L'un des deux bouquins, d'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure, puisque c'est Zombillennium.
Oui, c'est vrai.
Donc, voilà.
Oui, c'est vrai qu'on aurait pu le remettre là-dessus aisément. Bon, je ne l'avais pas encore lu. Donc,
oui, de toute façon, on ne parle que des bouquins que nous avons lus. Après, il y a plusieurs bouquins qui, selon nous, pourraient faire partie de la sélection si ce n'était pas un public jeune.
D'accord. J'en profite qu'on est en avance de 3 minutes pour quand même lancer la pub.
Imaginer un film, c'est le concours Le Goût des Autres, avec la complicité de Mousse et Hakim, qui sont les parrains de cette 6e édition. L'association Jindou Cinéma lance ce concours Le Goût des Autres, qui est ouvert aux jeunes de 12 à 20 ans, résidant dans la région Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées. Les participants devront soumettre un projet de court-métrage de fiction sur les thèmes de la diversité culturelle et du vivre ensemble. Date limite de participation, c'est le 10 janvier 2011. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.legoutdesautres.fr. Radio Éphémère est partenaire de cette édition, de cette 6e édition, le concours Le Goût des Autres, Imaginez un film.
Ouais, mais non, Xavier. Non, c'est là, je te dis, cinéma asiatique, c'est pas forcément chinois, c'est coréen aujourd'hui.
Mais tu m'avais dit que tu avais un film hongkongais.
Non. Moi,
t'as pas
dit,
vu ?
Non, je t'avais dit film japonais. C'était Kitano, mais il y est plus. Mais sinon, tu peux remettre le chinois. Non, tu peux pas remettre jingle, c'est coréen, c'est sud-coréen. C'est pas chinois, c'est ni hongkongais ni chinois. Non, c'est sud-coréen. Ah, franchement, là.
Chiron. Et qui a plus cinéphile.
J'ai essayé de trouver des paroles, je suis désolé.
Allez, c'est Noël. Alors aujourd'hui, c'est pas du tout. Alors parce que ça va contrebalancer avec la programmation de l'e-sport tout à l'heure qui va nous faire une programmation de Noël aux petits oignons qui va sentir la neige et les flocons. Moi c'est pas du tout ça, mais alors pas du tout du tout. Moi c'est un film qui s'appelle No Mercy. Alors quand tu cherches sur Google No Mercy, c'est vrai que tu tombes sur des combats
c'est
et tout.
Pas de pitié, hein. je tiens à préciser. Pas là, non merci, les cadeaux c'était gentil. Non,
c'est vrai que là, non merci, je veux plus de foie gras. Non, c'est pas ça non plus. C'est non, là, pas de pitié, c'est vrai qu'il y a aucune pitié dans le film. Donc c'est un film sud-coréen. Si vous suivez un peu ce que c'est les films sud-coréens dont on a déjà parlé, vous savez qu'ils vont pas parquer le dos de la cuillère. Donc c'est un film de... Alors, attention, moment casting. Le film de Kim Yong-joon avec Sol Kyung-gu, Ryu Sun-beom et Han Ye-jin.
Je n'ai pas ri.
Ah ouais.
Pas mal.
Et disponible en DVD chez CTV International. Alors... Ça raconte, donc on suit le professeur Kang qui est l'un des meilleurs médecins légistes du pays. Avant de se retirer pour vivre avec sa fille de retour des États-Unis parce qu'elle était allée pendant 13 ans pour suivre des successions de grèves de moelle épinière parce qu'elle est très malade, en fait il accepte une dernière affaire. Et là quand tu connais l'univers des thrillers, la dernière affaire ça pue généralement. Et là, effectivement, ça va puer grave parce qu'il s'agit d'une jeune fille qui est retrouvée découpée près d'une rivière. Découpée avec des membres et tout. Elle a le bras d'un côté, voilà. Elle est corps reconstituée mais découpée. Le suspect numéro 1, il se trouve que c'est un activiste écologique. On a tout l'accable. Il est très vite arrêté et il avoue le meurtre. Je dis, il avoue le meurtre. Bon, le film est déjà fini. C'est quoi ? Il y avait commencé à y avoir des personnages sympas et tout. Mais justement, c'est trop facile parce que l'un de ces hommes a kidnappé la fille de Kang, justement, qui devait revenir aux États-Unis et qui ne lui sera rendu que s'il parvient à innocenter le coupable. Forcément, puisque la police s'appuie sur son témoignage de médecin légiste et sur son expertise. Donc il va falloir, vous voyez gros qu'une maison, comment ça va se passer.
Oui.
Il va y avoir la police qui va enquêter d'un côté, lui va devoir falsifier les preuves, essayer de maquiller les indices, retourner sur la scène de crime avec évidemment les flics dans son dos, il faut pas qu'il montre qu'il est en train de tout falsifier. Et justement, vous imaginez un peu la tension qui va naître de ce truc-là. Surtout qu'on comprend très vite que, si le meurtrier s'en est pris au médecin légiste, c'est peut-être pas par hasard. Il lui dit, pose-toi la question, pourquoi je t'ai pris toi. Alors, c'est vrai que le médecin légiste, au départ, tu dis, c'est un gars, il propre sur lui, il aime bien sa fille, c'est un médecin qui est posé, qui fait bien son métier, il a l'enquêtrice en chef sur justement cette affaire, ça a été une de ses élèves, elle le vénère et tout, c'est un mec, il a rien à te reprocher, dans le cinéma sud-coréen. Alors, la Corée du Sud, on en parlait souvent dans cette émission, Memories of Murder, Old Boy, The Chaser, Mother, donc on peut qualifier ces films sud-coréens. Alors, les qualités, ça, on n'en démord pas, donc images soignées, contournement systématique du happy end, mise en scène de la douleur physique et mentale, refus des morts douces, criminels retors profitant des faiblesses des forces de l'ordre, et faculté prodigieuse de plonger le spectateur dans un état de stress extrême. Alors c'est vrai qu'on a souvent l'habitude dans cette émission de blaguer un peu autour des films. Alors là c'est vrai que quand je dis stress extrême, c'est stress extrême. Ça éprouve, c'est-à-dire quand tu sors des films, tu dis... Ah ouais. Ah ben non, mais je pense pas que je me le reverrai dans ma vie celui-là. c'est très bien, je le conseille, mais il faut le voir une fois, quoi. Voilà, c'est assez caractéristique des films qui viennent de Corée du Sud. C'est du coup de poing. Esthétiquement, c'est nickel. Au niveau de la mise en scène, c'est extrêmement nerveux. Alors le film est divisé en deux parties, c'est-à-dire que la première partie, ça te plante l'ambiance du meurtre. Donc moi je suis enquêteur, on voit que j'ai un rival, c'est un peu un con, un bourrin, mais l'enquêtrice, c'est une jeune enquêtrice, donc elle est pas prise au sérieux par ses pairs. Il y a la direction qui lui quand même fait confiance, donc il y a un petit peu une intrigue dans l'intrigue, puisqu'est-ce qu'elle va réussir à faire entendre sa voix dans l'enquête. Tu te dis, comme l'autre c'est un bourrin, est-ce qu'il va pas lui mettre des bâtons dans les roues dans l'enquête au détriment de justement du coupable? Est-ce que le médecin légiste va réussir à innocenter le mec? Alors quand tu vois la gueule du mec, tu n'as pas vraiment envie qu'il soit innocenté non plus. voilà, il a réussi à parler à sa fille par le téléphone. Quel est le jeu retors qui est derrière? Bon, c'est vraiment malsain. Ce qu'il y a aussi qui frappe. Alors, je termine sur le film découpé en deux. Ah, découpé. Alors, première partie, donc super propre, ambiance du meurtre. Alors voilà, on arrête assez vite le meurtrier. Deuxième partie, complètement survitaminé. Donc, la mise en scène, ça devient super nerveux. Donc, caméra à l'épaule tout le temps. Les vestes et les cols blancs, ça devient franchement rouge. L'hémoglobine s'agicle, il y a des coups de partout, les personnages sont complètement salis à la, enfin super crade, ça finit dans la poussière et tout. Ouais, d'accord, ça bousille les repères que tu avais au début. Et le film aussi se démarque parce que le héros, c'est un médecin légiste. Et le médecin légiste, il fait quoi? Il fait des autopsies, et donc pour faire des autopsies, il faut découper des cadavres. Et le metteur en scène, quand il s'agit de montrer ce que fait le médecin légiste, il va faire des gros plans. Bon, ça reste esthétique, ça reste joli, mais c'est voilà, tu vois Franco, tu vois du gros plan, tu vois que le scalpel ça découpe vachement bien, tu vois ce qu'il y a sous la peau, qu'il faut bien enlever la peau, il faut enlever les organes, découpage d'organes pour les mettre dans des petites boîtes pour les peser après. C'est à la fois c'est presque écœurant, mais c'est quand même beau, donc c'est pas pour t'écœurer non plus. En même temps, le fait, alors je vous donne juste un indice, le fait qu'il soit médecin légiste, c'est pas innocent non plus. Voilà, bref, essayez de vous mettre dans la peau du criminel, comment il va faire pour essayer de piéger l'autre. Bon voilà, qu'est-ce que c'est le passé qui les relie? Moi je l'ai vu hier soir, voilà, je pense que c'est quand même de cette race de film qui te reste un peu dans la tête après. Donc si vous êtes, je sais que du sport et fan de films de psychopathes, je pense que je te recommande quand même le visionnage de ce film. Évidemment, il faut...
Familialement.
Non, surtout pas, justement, surtout pas. Juste, le défaut du film, c'est que il ne se débarque pas assez de films super connus de ce genre-là. Quand tu as compris de quel film il se prétend être l'héritier, tu as quand même identifié à peu près où va aller le scénario. C'est un peu dommage, donc évidemment je l'ai spoilé dans mon texte qui sera sur mon blog, mais je vais pas le spoiler ici. Il y a deux films qui sont dans ce site, ils sont identifiables très très vite, donc vous verrez la référence, et voilà, donc c'est ça qui est un peu dommage. Et le scénario, une fois que tu as identifié les rouages, tu sens comment ça va finir à peu près grosso modo. N'empêche qu'à la fin t'es quand même complètement assommé, hein. Mais bon, même si tu avais vu venir, t'es quand même assommé. Voilà. il t'épargne rien, c'est à dire que le mec, il est, c'est un salaud, c'est un beau salopard. Le mec, il recule devant rien, il recule vraiment devant rien. Voilà, c'est ce genre de film à voir si vous aimez les films de psychopathes un peu malsains avec l'ambiance très malsaine. Je vous les recommande. Donc ça s'appelle Non Merci. C'est un film qui est complètement passé inaperçu. Vous recherchez sur Google, il est très peu chroniqué. Donc c'est édité en DVD chez CTV International. C'est un film sud-coréen de Kim Young-joon et qui est quand même excellent.
Radio FMR 89.1 MHz, nous sommes donc dans le supplément week-end du 18 décembre 2010. Et avec Stéréo Total, extrait de l'album 12 Bambi, on va parler de Cannibal. I don't like what's going on.
Je ne suis pas sentimentale, pas provinciale, pas femme fatale. Je ne suis pas musicale, pas vénale, pas vandale, je suis cannibale. Je ne suis pas provinciale, pas sentimentale, pas femme fatale. je ne suis pas amical, pas vénal, pas vandale, je suis cannibale. Qu'est-ce qui mijote, qui fait la popote aujourd'hui? Qu'est-ce qui mijote, à quelle sauce me servira-t-on mon mari? Oh là, mon conjugal, je t'adore, je t'avale, ça te change, je me régale. I don't like what's going on. Je ne suis pas sentimentale, pas provinciale, pas fameuse, fatale. Je ne suis pas musicale, pas vénale, pas vandale, je suis cannibale. Je ne suis pas provinciale, pas sentimentale, pas fameuse, fatale. Je ne suis pas amicale, pas vénale, pas vandale, je suis cannibale. Qu'est-ce qui mijote, qui fait la popote aujourd'hui? Qu'est-ce qui mijote, à quelle sauce me servira-t-on mon mari? Oh là, mon conjugal, je t'adore, je t'avale, Dieu que change, je me régale. I don't like what's going on. Oh là, mon conjugal, je t'adore, je t'avale, sale cochon, je me régale. I don't like what's going on.
Les Stéréo Total, 12 Bambi, le morceau s'appelle Cannibale. Et il faut quand même faire un hommage dans cette émission à un réalisateur qui nous a manqué, un réalisateur français.
Blake Edwards.
Français, perdu, je l'ai dit avant. hélas méconnu, c'est Jean-Michel Rollin Roth le Gentil, Jean Rollin, qui est né le 3 novembre 38 et qui est mort d'un cancer le 15 décembre 2010, avait après quand même une très longue maladie, sur laquelle il a fait un film testament d'ailleurs. On verra ça tout à l'heure. Alors Nanarland, parce que c'est pas un grand réalisateur, loin de là. Malheureusement pour lui, Nanarland lui dit qu'il y a au moins trois Jean Rollin. Tout d'abord, l'auteur d'une œuvre fantastico-érotico-poétique très personnelle, où des vampires dénudés errent lentement dans des châteaux en ruine. Puis le pionnier du film X, sous les pseudonymes de Michel Gentil ou Robert Xavier, tournera quelques œuvrettes pour salles spécialisées dans les années 70. Et enfin, le réalisateur débrouillard, toujours disponible, homme qu'on appelle lorsqu'Eurociné ou tout autre petit producteur de cinéma bis franchouillard cherche à concrétiser un projet foireux que plus personne ne veut assumer. Et il faut encore ajouter Rollin, le bon copain, qui n'hésite jamais à filer un coup de main pour assumer un petit rôle dans les productions de ses amis comme Norbert Moutier, ou Rollin, l'écrivain qui concrétise sur papier ses visions fantastiques. J'ai appris incidemment que, en fait, il a été... il a dirigé des collections de livres chez Florent Massot et Fleuve Noir. Donc, comme quoi, on les connaît relativement mal. Faut dire que Jean Rollin, c'est un réalisateur qui, d'abord, grâce en soit rendu, est un des réalisateurs cultes du professeur Thibault, enfin de tous ces bisseux là qui œuvrent à la Cinémathèque de Toulouse et qui donc l'ont remis un petit peu en lumière. C'est grâce à eux que je l'ai découvert. Il a d'abord commencé comme monteur quand il a fait son service militaire à l'armée avec Claude Lelouch, puisqu'ils ont travaillé ensemble sur plusieurs publicités, plusieurs documentaires. C'est-à-dire que Claude Lelouch réalise et Jean Rollin faisait le montage. Ils ont fait ainsi un documentaire sur la mécanographie et un autre qui était un film réel sur la guerre du silence. Il tourne à la fin des années 50 et au début des années 60 quelques courts-métrages et il a écrit L'itinéraire marin en 1963, que l'on retrouve dans son autobiographie, qui aurait dû constituer le premier long-métrage de Jean Rollin, mais qui ne vit jamais le jour, avec Marguerite Duras qui a écrit les dialogues, s'il vous plaît. C'est en 68 que Jean Rollin réalise son premier long-métrage. En fait, c'est un court-métrage qui a été commandé par un exploitant de petites salles parisiennes et qui voulait ressortir en fait un film de la Hammer, si je me souviens bien, et qui lui a dit bah, en fait, c'est un programme pas suffisamment long, donc on va faire une double sortie. Donc tu vas réaliser un petit court-métrage. Court-métrage qui finalement ne fera pas 30 minutes, mais 40 minutes. Ce qui fait que bon, alors on va en faire un long métrage. Donc ils sont partis sur un autre scénario de long métrage. Ils en ont fait un truc unique. C'est une œuvre assez unique. Hein, je vais dire que ça s'appelle Le Viol du Vampire, parce que c'est une œuvre qui est réalisée en noir et blanc, qui est tournée pour la première partie dans une maison abandonnée qui en fait comporte un grand théâtre où on a véritablement une pièce de théâtre. C'est-à-dire, ce sont des amateurs qui jouent une pièce de théâtre avec sur scène un groupe de free jazz qui fait des intermèdes comme ça qui joue. C'est étonnant. Je veux dire que quand on sort, je veux dire, de l'histoire de l'œuvre. Ben là, on se dit, ouais, ok, on passe de côté sur l'histoire, ben, le viol du vampire sur le titre. Ben, en fait, ça fait une œuvre qui est totalement fantastique et, je veux dire, qui est arty et qui passe très bien. Malheureusement, ce sera l'un des rares films à être sorti pendant les événements de mai 68. D'ailleurs, il faut imaginer qu'à ce moment-là, on parle de viol de vierges qui deviennent vampires, etc. Pendant ce temps-là, ben, y a un groupe qui s'appelle les Aphrodite Child qui essaie de recruter des vierges à Paris pour faire les chœurs sur leur première œuvre. Et il se fait démonter par la critique parce que tout le monde s'attendait à avoir en fait, l'affiche réalisée par Philippe Druyer, qui à l'époque était totalement inconnu. L'affiche laisse suggérer que c'est le premier grand film d'horreur français, alors que c'est faux, il y en a eu un avant par Robert Hossein d'ailleurs, il me semble, en 1960, alors que pas du tout, c'est pas du tout fait pour être un film de vampire de l'époque, c'est les films de la Hammer, vous voyez le genre, vous voyez, donc pas du tout, c'est un truc complètement arty, et tout le monde l'a éreinté, personne n'a compris, alors que c'est une œuvre qui est vraiment personnelle, qui passe plutôt bien. Il va réaliser d'autres films sur le thème du vampirisme, La Vampire Nue en 69, Le Frisson des Vampires en 70, Le Requiem pour un Vampire en 71. Malheureusement, ce sont des films qui vont se faire éreinter par la critique et donc le public va pas aller au cinéma à l'époque. Et il va se retrouver à tourner sous pseudonyme des films érotiques, soft, alimentaires, comme Jeune fille impudique, et Tout le monde, il en a deux. J'aime beaucoup le titre. Il s'oriente alors vers des productions de série B théoriquement plus susceptibles de drainer un large public, parmi lequel eh ben, il y a Les Raisins de la Mort en 77, sur lequel il va sortir Brigitte Lahaie du circuit du X, puisque ce sera son premier rôle, entre guillemets, dramatique. Notez, bon, c'est un film sur le thème d'un village contaminé où tout le monde devient fou. Donc voilà. Le Lac des Morts Vivants, sous le pseudonyme de J.A. Lazer, où en fait il reprend la suite d'un tournage d'un film que Jesus Franco a fui. Jesus Franco a tourné deux jours et puis il s'est barré parce qu'il a vu que c'était production Eurociné. Donc le producteur derrière écrivait le scénario pour aller encore plus vers l'économie. Dit à Jesus, non, aujourd'hui en fait on va tourner ça. Ouais, mais tu es en train de massacrer l'histoire. Même pour ça, il a fui. Et Jean Rollin a eu un coup de fil. Elle est partie en vacances. Elle lui dit, est-ce que tu veux pas tourner un film? Bon, ok, je veux bien faire. Donc ça donne des soldats nazis qui sortent à cause d'un rite vaudou d'un lac au fin fond des Alpes avec le maquillage qu'ils font parce que le maquillage n'était pas waterproof. C'est le plus mauvais film français. Voilà. Et c'est un petit peu dommage parce que d'un autre côté, il est capable d'œuvres beaucoup plus personnelles qu'il fait à côté en faisant ses petits films alimentaires comme Fascination en 79, premier grand rôle estimé de Brigitte Lahaie dans le cinéma traditionnel. Il faudrait changer de fréquence pour y poser la fréquence, pour y poser la question, donc je ne sais pas. Malheureusement, s'il va se spécialiser dans ses films, je vais dire vraiment tourné à l'économie pour Eurociné dans les années 80, malheureusement, c'est le moment où on surtaxe les films X. Et où en plus, eh ben, les petits cinémas spécialisés vont disparaître pour les loueurs de VHS qui vont commencer à arriver.
L'avènement des magnétoscopes. Hein.
Exactement. C'est là qu'il va se retrouver, d'abord il va retourner vers l'écriture, il va se retrouver aussi à diriger des collections de livres chez Florent Massot et Fleuve Noir. En 95, il revient au cinéma, des films tardifs comme Les Deux Orphelines Vampires en 97 ou La Fiancée de Dracula en 2002, où il revient beaucoup plus à une œuvre personnelle tirée sur ses propres deniers d'ailleurs, où il le souhaite. Il tourne en 2007, après une longue période de silence, avec Ovidie, qui est une actrice hardeuse, La Nuit des Horloges. La Nuit des Horloges est un film personnel, bourré de références à ses films qu'il reconnaît. Il essaie de retrouver les acteurs, les producteurs, les personnes avec qui il a bossé, il les fait figurer dedans. Film tourné dans un cimetière parce qu'il sait qu'il est proche de la mort. Et d'ailleurs, pendant la production du film, qui se fait vraiment par étapes, à signaler, il se retrouve deux fois sur la salle d'opération et deux fois on croit qu'il va mourir. Donc il y a vraiment le côté doomed, je vais dire, le côté je vais vers la mort. Donc La Nuit des Horloges est un film extrêmement dur sur son propre destin. Et d'un autre côté, où il cite ses propres films. Et malgré tout, en 2010, il va tourner en format vidéo Le Masque de la Méduse avec son assistante et sa monteuse préférée dans le rôle titre qui est de la Méduse, qui en fait là aussi c'est un théâtre filmé, c'est tourné dans un théâtre sur le thème en fait d'une fille qui a été kidnappée par la Méduse et qui va être transformée en statue de pierre, et où quelqu'un va aller chercher dans le tréfond du théâtre au milieu d'une galerie de statues. C'est tourné avec 3 francs 6 sous et malgré tout je l'ai vu à la Cinémathèque, c'est vraiment superbe. Et c'est là où j'ai rencontré Jean Rollin qui a écrit un bouquin, donc tu peux le ressortir s'il te plaît, j'ai oublié de le noter.
Je montre à la caméra.
Voilà, Moteur coupé, mémoire d'un cinéaste singulier, c'est chez Edir, où en fait c'est l'autobiographie de Jean Rollin. Il existe une version entre guillemets collector où dedans il y a le DVD de La Nuit de l'Horloge. Oui, c'est celui-ci.
C'est chez Edith, ça s'appelle.
Voilà, dans lequel La Nuit de l'Horloge est passée directement sur CinéFX. Et d'ailleurs, il remercie la chaîne du groupe AB parce qu'ils l'ont beaucoup aidé à un moment où il avait besoin d'argent en rediffusant ses films, notamment Les Raisins de la Mort et tout ça, et Le Viol du Vampire. C'est étonnant, Primo, plus d'une raison, parce que Primo, on lit sa bio et c'est sans concession, il reconnaît qu'il a tourné avec 3 bouts de ficelle, que des fois il a imposé à des personnes qui ont voulu être actrices, il les a plus ou moins escroquées en les faisant tourner dans les embruns marins sur une plage en Normandie, seulement vêtues d'un voile par nuit en plein hiver. Ouais, ok.
Ouais.
Voilà.
Il a fait son James Cameron, quoi.
Voilà, exactement. Donc, il raconte tout ça. Il le raconte, sans trop de regrets. Et à la fin, il y a donc le scénario coécrit avec Marguerite Dumas, L'Itinéraire marin.
Duras,
pardon. Excusez-moi, j'ai oublié de prononcer le S à la fin.
Peut-être Dumas, c'est
pour ça. C'est un petit peu dommage. Alors, parmi ses films les plus personnels, il y a Le Viol du Vampire, Vampire Nu, Requiem pour un Vampire, Lèvres de Sang, Les Raisins de la Mort, Fascination, La Nuit des Traqués, la nuit de l'Horloge, La Fiancée Dracula, Le Masque de la Méduse, qui sont vraiment, vraiment tournés par passion, et ça se sent, sont vraiment un film personnel. À côté, il a fait du X, alors j'irai pas plus loin dans le côté hard des termes que douce pénétration, vibration sexuelle, apothéose porno. Après, ça va largement plus haut, dans les titres. On commence à verser de plus en plus dans le glauque, dans les titres à ce moment-là, même si ça y est pas totalement. À côté de cela, il a fait des films qui ne signent pas forcément de son nom, comme Le Lac des Morts Vivants, Les Paumés du Petit Matin, Les Trottoirs de Bangkok, Ne Prends Pas les Poulets pour des Pigeons, À la Poursuite de Barbara. C'est pas des films qui revendiquent, c'est pas vraiment son style. Et je pense que Disco Sex, à mon avis, est à mettre dans cette liste-là. Mais en tout cas, c'est un réalisateur cassé, cassé par la critique, cassé par les films qu'il a tournés, et alors que d'un autre côté, il avait un univers vraiment personnel. Je veux dire, rien que pour le côté complètement osé et délirant de, du viol du vampire, ça mérite d'être vu pour ce côté-là. Après, je pense que du sport, il est en train de chercher pour voir s'il y a des rediffusions de Jean Rollin.
Non, non, mais enfin bon, là, tu peux toujours... S'il y a peut-être une chaîne qui est...
C'est CinéFX.
C'est CinéFX, mais également Ciné-Cinéma Frisson, hein, qui est un petit peu, on va dire, noyauté par les gens de Mad Movie. Quoi. Donc, c'est très possible de voir du Rollin de temps en temps sur Ciné-Cinéma Frisson.
C'est un petit peu dommage, voilà. Je sais que Thomas, lui, il m'a avoué tout récemment que jamais il a vu un Jean Rollin, ce qui a offusqué même ma copine. Parce que c'est vrai que c'était le grand jeu, c'est chaque fois qu'on se levait à 3h du matin, on met CinéFX, est-ce qu'il y a un Jean Rollin? Non, perdu ça, Jésus Franco.
Pourquoi ils se lèvent ensemble à 3h du matin, je me demande.
Non, c'est soit l'un, soit l'autre, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on a découvert Les Raisins de la Mort, ou enfin Le Viol du Vampire, on le voyait par épisode et tout, et puis finalement on l'a vu en entier, et le découpage par acte et tout, ça passe super bien. Quoi.
Oui, oui, mais il faut dire que celui avec Brigitte Lahaie est diffusé relativement souvent, on va dire, hein, parmi la dans la filmographie de Jean Rollin. Bon bah,
je sais que Solar Russe est tombé.
Le seul nom de Brigitte Lahaie fait venir la foule, hein, de toute façon. Voilà. Enfin, la foule entre guillemets, quoi.
Voilà. Et je suis désolé pour Jean Rollin et donc paix à ton âme, mais Solar Russe est tombé complètement amoureux en voyant la bande-annonce du Lac des Morts-Vivants à la Cinémathèque de Toulouse, qui a mis la bande-annonce dans une soirée crapuleuse en fermeture l'an dernier d'Extrême Cinéma.
Pourquoi tu dis excuse-nous Jean Rollin, amoureux?
Parce que voilà, c'est un film qu'il a refusé de reconnaître. Il a reconnu vraiment sur le bout des lèvres sur la fin de sa vie.
Sur le bout des lèvres.
Et c'est dans une interview de Nanarland qu'il explique comment il a tourné et tout ça, et finalement dans un éclat de rire. Mais il refuse de le reconnaître dans sa filmo, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Et sans plus.
Donc c'est bien parce que pour l'instant on est fidèle à l'esprit de Noël. Ça c'est bien. On parle de zombies, on parle de psychopathes, de films de vampires avec de l'érotique.
Non, je suis désolé, mais Jodante aussi, hein, Noël. Il en a fait une scène d'horreur.
Oui, oui. Allez, du sport fais-nous rêver. Esprit de Noël, es-tu là?
Ah bah
esprit
moi j'ai un disque.
Ah oui, un disque avant.
Et j'avais prévu ça justement pour redescendre. C'est les histoires toutes bêtes de Pierre et Vincent, c'est extrait de leur premier album, Si j'étais toi.
D'un éléphant qui faisait du toboggan sur la lune et flanc, le voilà qui dégringole sans parachute, c'est pas drôle. Heureusement, passant par là, une famille nombreuse doit d'un coup d'aile lui sauva la vie. Très frimeur et surtout très flemmard, qui pour faire du zèle aux gazelles roule dans une Jaguar diesel. C'est l'histoire d'un lézard né à Lille par hasard, qui lésait de ne pas avoir assez de soleil dans sa région, se bronze aux UV sous des néons pas cons. Grand-mère moribonde qui demande à ses amis, avant de passer dans l'autre monde, qu'on l'incinère dans un four micro-ondes. C'est l'histoire d'un pas ému, qui zozote dès qu'il a bu un peu trop de Malibu. Zut alors qui disait bu, ah zut trop. Camille et 12 pattes dans une secte. Selon les rumeurs, le méchant gourou aurait l'allure d'un kangourou. Méfiez-vous, c'est l'histoire d'un lombric tellement, tellement élastique qui, quand il s'étire le matin, se réveille étonné dans le pays voisin. Ben tiens. Qui en plus d'être myope avait ses cons, autant le sens de l'orientation qu'un taulard qui sort de prison. Si bien qu'un jour, en creusant un long tunnel de 10 bornes environ, elle fit éruption en plein cœur d'une cour de prison. Sur ordre de la direction, les matons la chassèrent à coups de bâton, de peur que tous ces trous creusés à tâtons donnent aux détenus des idées d'évasion. Allons.
Une dans le suppléant week-end, Pierre et Vincent. L'histoire toute bête. On est sur Radio FMR et du sport, y va. Zou. Ah, oula. Excuse-moi. Avec... C'est en fait, j'avais une piste qui est.
Avec un micro ouvert, ça marche mieux.
Oui, non, mais c'est un autre disque qui partait plus lentement.
Voilà, donc, outre Jean Rollin, il y a également Blake Edwards qui a rendu l'âme.
Ce que je savais pas. J'avais oublié de préparer le gag, mais
ce que je savais pas concernant le personnage, c'est que c'est un Hoki, un mec qui est né dans l'Oklahoma, à Tulsa exactement, et on connaît, tout le monde connaît sa filmographie, il n'y a pas de problème. Il commence aux États-Unis où dans les années 50, dans les débuts des années 1060, il tourne que des films relativement intéressants et tout. Mais, au bout d'un certain moment, Hollywood ne lui fait plus confiance et c'est là qu'il décide, plus ou moins contraint, forcé, d'émigrer en Angleterre. Et c'est en Angleterre qu'il réalise quand même les films qui sont les plus connus de lui, à savoir ce qu'on entend là en musique de fond, la musique d'Henri Mancini, La Panthère Rose, donc avec son fameux Inspecteur Clouseau. C'est quand même le type qui nous fait... des films comme Diamant sur canapé, qui nous a fait tous les Inspecteurs Clouseau et tout. Et après sa période anglaise, bien sûr, il revient aux États-Unis où il revient un petit peu en odeur de sainteté et il démarre, on peut dire, une nouvelle carrière, toujours dans la même veine, la même veine de la comédie, la comédie un petit peu plus construite. Parce que si on prend un film par exemple comme The Party, qui est un des films emblématiques de Blake Edwards, avec son comédien fétiche Peter Sellers, c'est vraiment une avalanche de catastrophes qui s'en mêlent et tout, et puis ça va donner lieu à une explosion finale et tout, où tout le monde se pisse dessus de rire. The Party est le film certainement le plus abouti de ce côté-là, quoique du côté des Panthères Roses, c'est pas mal non plus. Au début des années 80, il récidive un petit peu avec une veine un peu plus classique de la comédie, mais qui exploite des thèmes qui ne sont pas tellement abordés, ou parce que les gens, les décideurs d'Hollywood se disent le sujet est un petit peu osé, et il adopte, il commence à parler un petit peu de transvestisme, de travesti, Victor, Victoria. Il parle de l'alcoolisme, de boire et déboire, des films comme ça, des films des années 80, qui sont tout à fait intéressants, qui sont vraiment de très bons films de Black Edwards. Et c'est un réalisateur qui a continué à tourner jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, de toute façon. Donc, paix à ton âme, mon cher Blake Edwards. Parlons à présent. Eh bien, de cette revue qui s'appelle Impact, on en avait pas, j'en avais parlé lors de sa ressortie, hein, quand ça avait été couplé à Mad Movie, puisque bon, ce sont les mêmes mecs de Mad Movie. Impact qui sortait déjà il y a une quinzaine, vingtaine d'années à côté de Mad Movie pour se différencier au niveau genre cinéma. Mad Movie était plus consacré aux films de science-fiction, horreur et tout ça, alors que Impact c'était le cinéma à l'action, hein, les bons films bourrifs,
série B,
voilà, bon, ce qu'on aime bien, quoi. Et dans le Impact numéro 7 de décembre, eh bien, que j'ai acheté direct et tout quand j'ai vu la couve, Steve McQueen, ben il y a pas de problème, et il n'y a pas que Steve McQueen d'ailleurs, où bon bah on apprend beaucoup de choses sur sa vie, bon, qui sont connues, son enfance malheureuse, là, tout le truc. On détaille un petit peu plus la façon dont il a intégré Au nom de la loi, la série qui l'a rendu célèbre, quand même plus de 250 épisodes, hein, Au nom de la loi, c'est quand même pas mal, hein, mais bon, au fur et à mesure, ça commençait quand même à l'emmerder un petit peu. On sait également qu'il a tourné Les Sept Mercenaires, alors qu'il était encore dans la... Il était encore en train
dans
de tourner
la production de la série, ouais.
Et pour pouvoir tourner Les Sept Mercenaires, eh bien, il a simulé un accident de voiture pour pouvoir se faire porter paille, pour pouvoir aller sur le plateau de tournage.
Comme quoi les accidents de travail fictifs, les congés, maladies...
Alors, on parlait de Black Edwards avant, et puis Steve McQueen parle également de Black Edwards et de Diamant sur canapé, et il dit... Si je n'avais pas été pris par Au nom de la loi, j'aurais bien fait Diamant sur canapé rien que pour frapper Audrey Hepburn. Alors, ça vous situe un petit peu le personnage, hein, personnage qui était, qui était relativement odieux, qui était camé comme ce n'est pas permis, surtout à partir de la seconde partie des années 60. Hein, c'était la bonne période de la cocaïne, LSD, enfin bon, la totale. Bon là, je ne parle pas des trucs qui se fument parce que ça, c'était bon, normal, quoi, il n'y a pas de problème. Je rappelle qu'il est quand même mort d'un cancer en 1980. Mais là où c'est assez intéressant, c'est le petit chapitre où on nous explique tous les rôles qu'il a refusés, en fait. Et c'est là que c'est vraiment très intéressant, parce que bon, on se dit là, quand même, chapeau bas mon gars et tout, quoi. Il refuse l'inspecteur Harry, French Connection, parce qu'il se dit, moi j'ai tourné Bullitt, donc rôle et tout, voilà. Bon, ça va, ok, je connais, c'est pas la peine. Il rejette également Le Convoi de la Peur, qui est un remake du Salaire de la Peur. Il s'intéresse à Apocalypse Now, mais seulement, bon, bah, souvent il refuse des rôles parce que, bon, bah, ou on lui refuse le rôle parce que lui il dit, bon, je veux tant. Et puis le type il dit, non, ça va pas, quoi. Et par exemple, pour Apocalypse Now, Coppola il dit, moi je veux Steve McQueen pour le rôle du Colonel Kurtz, y a pas de problème et tout. Oula. Et McQueen lui dit, ah ben tu me files 3 millions de dollars, je fais. Le mec il dit non quand même pas, c'est pas possible.
Il refuse à mon avis, connaissant Brando, je pense pas qu'il ait été sous-payé non plus, hein.
Oui, non
ouais, mais oui, mais 3 millions de dollars à l'époque, c'était absolument énorme, parce que je crois que Dali, ce qu'avait demandé Dali pour le tournage de Dune, c'était de l'ordre de 2 millions de dollars. Ouais, et bah, c'était déjà il n'y avait jamais eu de salaire à cette hauteur-là jusque-là, et c'était en 75, hein.
Oui, Apocalypse Now, c'est 79. Mm.
Oui, mais ça restait absolument
immense. Il faut
dire
aussi, et ça c'est connu, hein, de toute façon, que bon, bah, Marlon Brando, qui a été pris pour le rôle, a pris plus d'un million de dollars, tranquille, pour une apparition de 20 minutes dans le film.
Une apparition, il sort de l'ombre en train de se casser la tête.
Mais mec, quelle apparition.
Bah, il était hyper malade et tout, mais c'est pour le mettre le nom générique.
Mais mec, quelle apparition. Alors il refuse également Rencontre du troisième type. Et alors là, c'est assez rigolo parce qu'il raconte le truc où il dit Spielberg et moi, on s'est rencontrés dans un bistrot, on discutait du titre et tout, quoi. Mais et Spielberg dit il m'a annoncé qu'il devait refuser mon offre sous prétexte qu'il lui était impossible de pleurer à l'écran.
Ah.
Bon, d'accord, il refuse également Butch Cassidy
finalement,
et le Kid.
Finalement, ce sera un petit français.
Il refuse également Butch Cassidy et le Kid.
Richard Dreyfuss.
Ah oui, c'est vrai, je pensais que c'était le rôle de...
Bah, Truffaut, c'est un scientifique, c'est pas...
Voilà, et entre autres films qu'il refuse également, il y a L'Inconnu de Las Vegas avec Frank Sinatra. Alors, Monsieur Quigley, l'Australien, dont le rôle a été repris par Tom Selleck, Missouri Breaks, le rôle de Brando dans Missouri Breaks, il le refuse également, ou L'Épreuve de Force, que reprendrait un certain Clint Eastwood par la suite. Et
mais il a saboté sa carrière, ce mec.
Et il, vers la fin de sa vie, il se passionne pour un roman écrit par un certain David Morrell qui s'appelle Rambo. Mais bon, le studio trouve qu'il est trop vieux pour le rôle titre. Bon, Sly, il est vachement content, quoi. Et puis, il avait également pris des parts dans un film qui aurait dû s'appeler Bodyguard. Et qui sera tourné 5 ou 6 ans plus tard avec Kevin Costner et Whitney Houston. Alors qu'au départ, ça doit être Steve McQueen avec Diana Ross.
Tous les acteurs d'Hollywood peuvent lui dire merci, en fait.
Oui, pas mal d'acteurs peuvent lui dire merci. Mais enfin, d'un autre côté, il était vraiment pas tendre avec pas mal d'acteurs. C'est-à-dire que si j'avais à le retrouver, ce qui sort sur Dustin Hoffman, ils ont joué ensemble dans Papillon. Il déclare si des types comme Dustin Hoffman deviennent des stars, quel avenir y a-t-il encore pour Paul Newman et moi? Enfin bon, vas-y, j'y vais à fond les manettes et tout, quoi. Bon, de toute façon, c'était un mec qui était hard boy dans la vie, de toute façon. C'est pour ça qu'il s'est vachement, entre guillemets, entendu avec Peckinpah, oui, avec lequel il a tourné deux films. Hein, mais bon, les deux étaient de la même trempe et il est même arrivé à Steve McQueen de taper sur la gueule de Peckinpah parce que il n'aimait pas la façon dont il le tournait et tout. Enfin, ok, tout ça c'est donc dans Impact, mais pas que. Tu parlais d'outrage avant. Eh bien, il y a bien entendu l'interview
De Kitano.
L'interview de Kitano à propos d'outrage. Suivant. Ce Kitano, il y a un dossier sur les Yakuza avec également une petite série de quelques films qui s'intitulent les meilleurs des films de Yakuza, dont dans lequel figure en première position le Yakuza de Sidney Pollack avec Michum. Alors là, c'est quand même pas mal, et c'est vrai que c'est quand même un sacré bon film. Il y a également, au niveau série télé, un très bon article sur Breaking Bad, qui est vraiment la série qui dépote en ce moment, quoi. Qui sera une des séries de la décennie, ça, c'est sans problème.
Ah, ouais, carrément.
Ça, c'est sans problème. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'à voir comment s'achève la deuxième saison. On se dit c'est pas mal, ça.
Faut quand même
ça devient vraiment très très bien,
Faut quand même noter que dans les années 80-90 c'était encore les trois grands networks qui étaient en tête. Au début des années 90, c'est Fox qui a pris la tête. HBO est revenu avec des investissements plus qu'importants. Ensuite il y a eu Showtime, et actuellement c'est justement toutes ces petites chaînes comme AMC et tout ça qui cartonnent.
Ce qui est bien, c'est que il y a l'interview,
ce sont
de
des
Vince.
Chaînes qui sont gratuites en plus sur le câble, il faut
oui,
le
signer. C'est l'interview de Vince Gilligan, qui est le créateur, producteur, réalisateur, scénariste de Breaking Bad, et qui raconte la genèse de Breaking Bad. Et là, c'est trop marrant parce que Vince Gilligan, quand j'en avais parlé à la présentation de Breaking Bad, c'est le type qui a bossé avec Chris Carter sur X-Files et tout, qui a scénarisé au moins une trentaine d'épisodes. Et à la fin de l'aventure X-Files et tout, Vince Gilligan se retrouve au chômage. Et donc, avec un pot de scénariste, ils se disent qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre et tout. Là, on est vraiment, c'est la galère. Qu'est-ce qu'on pourrait bien foutre? Et puis, comme ça, en rigolant, quoi. C'est-à-dire, les trucs de scénariste, ils se disent ah, tu sais quoi, on pourrait acheter un minibus et tout, quoi. Et puis, sillonner l'Amérique et tout en fabriquant de la méthamphétamine pour pouvoir la vendre sous le ton de la vanne. Et donc, voilà l'idée. D'où vient l'idée de Breaking Bad et tout, d'une connerie entre scénaristes qui savent pas trop quoi foutre et qui savent pas de quoi demain sera fait au niveau professionnel. Mais là où je suis tombé un petit peu sur le cul, c'est sur les petits articles qu'il y a et qui parlent de petits films oubliés dans ce truc qui s'appelle Collateral. Et là, on nous parle d'un vieux film de 1958 de Val Guest qui s'appelle The Camp on Blood Island, et qui était sorti par la Hammer, où justement on nous dit on nous explique en préambule que la Hammer n'a pas fait que des films de Frankenstein, des films d'horreur et tout, mais il y avait, la Hammer c'est quand même une vieille maison qui date de 1934, donc de 34 jusqu'en 1950, les années 50, où sont sortis les premiers Frankenstein, les premiers Dracula. Mais qu'est-ce qu'ils ont quand même fait des films? Eh bien, c'en est un, donc de Val Guest qu'on connaît parce que c'est un réalisateur de série B qui a souvent œuvré dans la science-fiction. Et là, il s'agit d'un film réaliste, on va dire, car il s'agit d'un camp de prisonniers de guerre anglais en Asie, donc sous contrôle japonais. Et le pitch est très simple, quoi. Les prisonniers anglais savent que la guerre est terminée, mais vont tout faire pour essayer de le cacher à leur geôlier, parce que sinon, ils se font exécuter, histoire d'effacer les traces. Donc c'est un petit peu le pitch de ce film. C'est très brillamment raconté et c'est tout à fait normal, parce que l'article est signé Professeur Thibault.
Voilà. Oh bah tiens.
Alors, parce tout ça donc crois, dans le
Impact. Il me semblait bien que je l'avais vu et je l'avais vu dans un programme récemment, d'accord.
Tout ça dans, donc dans le Impact, ainsi que Boardwalk Empire, dont je vais vous parler tout de suite, maintenant, là, maintenant.
Voilà, on a parlé trois fois quand même de Professeur Thibault aujourd'hui.
Eh ben oui, bah,
comme quoi.
Il le
comme
mérite. Quoi. Alors, Boardwalk Empire.
Respire, respire, on y va cool, on y va calme, il est 13h14 et tu vois, t'as même le temps de boire un petit peu d'eau, donc tranquille.
Alors, Boardwalk Empire, sous ce titre, eh bien, se cache le nom d'une avenue d'Atlantic City qui est un peu l'équivalent de la 5e avenue à New York ou du Sunset Strip, enfin bon, voilà quoi, c'est l'avenue principale sur laquelle il fait bon être vu, où tout se passe, bref. Et ça se passe à Atlantic City. C'est une production de Martin Scorsese qui, enfin, débarque à la télé. On avait eu pas mal de très grands...
Il a fait des téléfilms avant.
Oui, téléfilms, sûr. Mais pas de séries télé. Pas de série télé. Martin Scorsese, Mark Wahlberg et Terrence Winter qui sont les producteurs donc de cette série. Mark Wahlberg, tout simplement parce que c'est lui qui avait acheté les droits en option avec Steven Levinson du livre Boardwalk Empire, The Birth, High Time and Corruption of Atlantic City, un livre de Nelson Johnson. Terrence Winter, on le connaît car à côté de David Chase, c'est lui le coproducteur de cette magnifique série qui est aussi l'une des grandes séries des années 2000, Les Sopranos. Eh bien, ça nous raconte ni plus ni moins que la vie à Atlantic City en 1919. 1919 est une date dans l'histoire américaine. Pourquoi ? Parce que c'est l'année où la prohibition est votée. C'est l'année où l'interdiction de produire, de vendre de l'alcool aux États-Unis est votée. Et donc, c'est l'occasion pour tous les malfrats, pour tous les mafiosi de sabrer le champagne, tout simplement, parce qu'ils savent très bien que si l'alcool n'est plus en vente légale, c'est eux qui vont pouvoir se faire des couilles en or. Martin Scorsese, donc, qui a mis beaucoup de son temps dans cette histoire-là et qui s'est dit, après tout, c'est assez proche de ce que j'ai fait au niveau de tous les films sur la mafia. Et donc, avec Terrence Winter, ils se sont attelés à ce que le film, à ce que cette série, 12 épisodes ont été produits et tournés, soit aussi juste que possible dans les décors, dans l'historique, dans les personnages. Bref, c'est vraiment la super production. Là, on parlait avant des petites chaînes qui refusent, des grosses chaînes du câble américaines qui refusent des projets tels que Breaking Bad. Vince Gilligan raconte qu'il a proposé Breaking Bad à absolument tous les gros networks et que tous les gros networks ont refusé, exception en fait de AMC, donc, qui a diffusé et qui continue à diffuser ce Breaking Bad. Pour en revenir à Boardwalk Empire, ça nous raconte donc l'histoire de, des personnages qui ont créé la ville, qui ont fait la ville, mais avec tous les dessous qui ne sont pas tellement reluisants. Et c'est également une petite relecture, c'est quand même historique, de ce que sont devenus des personnages qui à l'époque n'étaient pas du tout connus, à l'exception d'Arnold Rothstein, et encore, Rothstein a toujours été connu pour justement essayer de ne pas se faire connaître, essayer d'être toujours le plus discret possible. Bon, on va y apprendre aussi quels sont les débuts d'un certain Al Capone, d'un certain Lucky Luciano, d'un certain Johnny Torrio, pour ne citer que les plus connus. Donc, au niveau du casting, là aussi, c'est pas mal, c'est du haut de gamme. Le personnage principal, Nutch Johnson, est interprété Donc le mec qui tient un petit peu la ville sous sa coupe est interprété par Steve Buscemi. Et là, c'est quand même pas mal, c'est une surprise, parce que Steve Buscemi, il nous a toujours habitués à des seconds rôles. Second rôle dans lequel il excelle, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Steve Buscemi, il vous prend le second rôle. Et là, bon, bah, ok, fort, c'est lui le personnage principal, quand même, avec à ses côtés Kelly MacDonald, Stephen Graham, qui joue le rôle d'Al Capone, qu'on a vu dans Public Enemy, hein, c'est lui qui joue le rôle de Babyface Nelson, Vincent Pianza, qui joue le rôle de Lucky Luciano, Greg Antonacci, qu'on a vu dans la dernière saison des Sopranos, et qui reprend le rôle de Johnny Torrio, ainsi que Michael Stuhlbarg, qui joue le rôle de Arnold Rothstein. Voilà, Boardwalk Empire, donc, c'est sur Orange Cinémax à partir de demain soir, 20h40, 12 épisodes donc de cette série produite par Martin Scorsese, Mark Wahlberg et Terrence Winter, dont le premier épisode est réalisé par Martin Scorsese, bien sûr, mais dont les 11 autres épisodes sont réalisés par des réalisateurs de télé confirmés qui ont œuvré sur absolument toutes les séries haut de gamme que vous avez pu voir ces dernières années. Hein. Je parle de Dexter, Doctor House, enfin bon, je parle de toutes les bonnes séries, il n'y a pas de problème. Vous allez regarder les Tudor, enfin bon, les réalisateurs, il n'y a pas de problème. Hein. Ce sont de bons techniciens, sans problème. Boardwalk Empire, donc, c'est demain soir sur Orange Cinémax à partir de 20h40.
Je crois qu'on va passer aux petits nounours et autres animaux.
Ah non, d'abord on va faire.
Bah non, toujours pas.
Non, non, on va faire dans le choc des cultures.
Oh,
avec India Love Story.
Ah oui, c'est vrai.
Oh, une telenovela brésilienne produite par TV Globo, qui est la reine du genre, hein, de toute façon, hein, et qui est diffusée sur France O tous les jours à 20h du lundi au vendredi. Alors, la telenovela, c'est un genre à part, de toute façon, qui est bien connu, bien codifié. Hein, ce sont des histoires d'amour, ce sont des trahisons.
Ouais, merci, non, mais on a vu Plus belle la vie hier soir sur la 3. Hein,
voilà. Sauf que là, eh bien, le truc qui est très intéressant, c'est dans ce choc des cultures, parce que bon, telenovela, ben, brésilien, donc on se dit ça se passe au Brésil. Effectivement, ça se passe au Brésil, mais ça se passe également en Inde. Et c'est là que c'est très intéressant, hein, le mélange entre des personnages qui sont en Inde d'un côté et des personnages qui sont à Rio de Janeiro, hein, on le voit assez souvent, avec même des personnages qui vont de temps en temps aller faire un tour aux États-Unis pour conclure des affaires et faire un petit peu de business. Et là où c'est assez fort et tout, c'est que on adhère quand même. Moi, j'adhère complètement à ce genre de truc. Il faut dire que l'ensemble du casting est brésilien, hein, même pour les Indiens, les Indiennes, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de produits importés du tout. Mais ça fonctionne quand même très fort. Et vous avez absolument pratiquement tout le bestiaire indien qui peut exister au niveau des prénoms des personnages, hein. Vous avez du Shiva, du Indra, du Deva, du Maya, enfin elles sont toutes présentes, il n'y a pas de problème. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'on prend quand même pas trop les gens pour des cons, et on raconte quand même pas trop, du moins pour les pour pas la trop. Partie indienne, ben on raconte ce sont des trucs qui sont vrais, c'est-à-dire bon, la différence entre les castes, on développe un petit peu le système des castes en Inde, hein, c'est-à-dire bon bah oui, toi tu es de cette caste dont tu peux pas te marier avec celui-là parce qu'il est d'une caste inférieure et tout, oui mais si je fais ça j'accéderai à la caste supérieure. C'est de ce côté-là que c'est assez intéressant et tout. Sinon c'est comme d'habitude, c'est de la telenovela, mais c'est quand même de la telenovela haut de gamme, hein, avec des fois des petites chansons comme ça à Bollywood, mais qui sont chantées en portugais, en brésilien donc, et c'est là que ça vaut son pesant de cacahuète.
Ça doit pas être mal, ouais.
Si, ça vaut le coup. Hein,
ça,
vraiment.
Ça et,
non, mais au niveau de la production, en plus, c'est bien chiadé, hein, c'est pas de la production de bas étage, hein, c'est quand même bien filmé et tout.
En général, les productions de telenovela brésiliennes ou mexicaines, c'est d'abord studios qui sont absolument immenses. Et ensuite, des fois, on est vraiment surpris par la qualité, les moyens qu'ils y mettent. Ils y vont pas par quatre chemins. Surtout qu'en plus, il y a justement un genre de telenovela qualitatif, entre guillemets, sur Globo, qui est fait pour passer le soir. Donc, c'est un peu le mélange, je vais dire, des grandes fresques historiques et de Plus belle la vie pour la France. C'est impensable.
Ouais, ouais. Non, ben, c'est India, a Love Story. Donc, c'est sur France O tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à partir de 20h. Alors maintenant, quelques petits films. Les films de Noël avec des animaux dedans. Mais il n'y a pas que des films de Noël avec des animaux. Il y a aussi des films de Noël sans des animaux. Hein. Alors, ça commence direct à fond les manettes cet après-midi, en fin d'après-midi à 18h sur France 4. 12 chiens pour Noël. Avec Jordan, Claire Green et Adam X. Il y a également aujourd'hui, à 17h50 sur W9, le visiteur de Noël avec William Devane et Regan Pasternak. Demain sur TF1 à 15h10, de l'espoir pour Noël avec Madeleine Stowe, James Remar et Jan Ziering. Qui est Jan Ziering?
C'est Steve Sanders dans Beverly Hills.
Voilà.
C'est un homme qui a suivi. C'est imprimé dans les octets.
Ah oui, pas de problème.
Il n'y a pas besoin d'être geek pour aimer Beverly Hills, c'est antinomique normalement.
Lundi sur M6 à 15h45, un Noël recomposé d'Armand Mastroianni. Attention, c'est pas du petit, avec Julie Warner et Stephen Eckolt. Mardi sur M6 à 13h50, un mariage pour Noël avec Gail O'Grady. Rappelez-vous Gail O'Grady dans les deux premières saisons de NYPD Blue. Magnifique blonde à forte poitrine. Bref, j'en passe. Et Greg German qui a joué dans
Ali McBeal, qui était monsieur Fish.
Oui, peut-être, ouais.
Et qui était adepte du massage de genoux.
Non, mais moi j'aime pas l'ami Ali McBeal.
Ah bon?
Non. Alors, mardi également à 15h35 sur M6, y a deux films l'un après l'autre. C'est La fille du Père Noël de Tibor Takács. Tibor Takács qu'on connaît plus pour ces films un petit peu rentre-dedans, action, voire films d'horreur. Quoi. Alors là, qu'ils fassent un film de Noël avec Mary Donnelly Haskell, Cathy Ireland et Douglas Campbell.
Il peut faire ça pour ses gamins.
Et sur Comédie, mardi prochain, 22h20, Noël chez les Muppets avec Michael Caine.
Ah, il est très fun en plus.
Ouais. Mercredi sur TF1, à 10h15, Le secret du Père Noël avec Thomas Cavanagh et Ashley Williams. Et sur M6, mercredi à 13h50, Le Noël des petites terreurs avec Dean Kane et Jean-Louise Kelly. Jeudi sur TF1 à 10h15, l'avant-veille de Noël avec Rick Roberts et
ça
Gage
fait beaucoup
Monroe.
De Père Noël. Lequel est le vrai là-dedans? Va savoir.
Et à 17h10, encore sur TF1, le jackpot de Noël avec Patrick Swayze et Matthew Knight ainsi que Cameron Bright. M6, jeudi, vous propose à 10h05 le fils du Père Noël avec Kelsey Grammer, Frasier et Charles Durning. À 13h50, un fiancé pour Noël avec Kelly Williams, la collègue de Tim Roth dans Lie to Me. Kelly Williams et Patrick Muldoon. Attends. Et à 15h45, un grand-père pour Noël. Et le grand-père, c'est Ernest Borgnine.
Avec une beau tête de nounours.
Catherine Helmond. Sur TF6, toujours jeudi prochain à 15h35, Je hais le Père Noël. Avec Whoopi Goldberg et Nigel Hawthorne.
Attends, j'attends qu'ils disent le Grinch, parce que c'est sûr qu'ils mettent le Grinch, non?
Non, parce que j'ai pas mis le Grinch, parce qu'il est programmé au moins 3 fois la semaine prochaine sur différentes chaînes.
Ah.
3 fois au moins.
Hein, non, mais plus, c'est quoi. Pas vrai, mais ils ont que ça à faire. Quoi.
Et tu l'as pas mis parce qu'il est trop programmé?
Ouais, non, mais bon, il est connu en plus. Quoi,
ah oui,
va,
oui,
quoi.
D'accord.
Non. vendredi, on termine avec sur TF1, 15h45, De mémoire de Père Noël avec Tim Cavanagh et André Williams. Sur M6, vendredi prochain, 13h50, à Noël à New York avec Anne Hedge et Tate Donovan.
Thomas a oublié de compter le nombre de fois que Noël apparaissait. Il avait dit qu'il le ferait, il a oublié.
Ah bon, sur TPS Star, à 20h40, Christmas Story, la véritable histoire du Père Noël, un film finlandais. Avec que des acteurs et des actrices finlandaises, donc j'ai même pas noté le
casting.
Le pays
du Père Noël.
Oui, c'est le pays du Père Noël. Et sur Teva, à 16h50, à la recherche de John Christmas, avec Peter Falk, Valérie Bertinelli et William Russ. Alors là, attention quoi. Et il y a également quelques films qui sont assez intéressants que je vous ai notés, surtout sur France 3, l'après-midi. Des films qui n'ont rien à voir avec Noël, mais bon, ils en profitent, c'est les vacances et tout. Et là, ben, on a du cul parce que bon, c'est vraiment de bons films. Lundi, par exemple, à 13h50.
D'accord. Moi aussi, je crois que c'est on a du cul à la télé.
Excusez-moi, c'est normal qu'il y ait eu le macaron qui soit apparu subrepticement. J'ai eu un mauvais réflexe.
Alors, vite fait, là, lundi à 13h50, La Mélodie du Bonheur. De Sound of Music de Robert Wise avec Julie Andrews et Christopher Plummer. C'est vraiment un film de Noël, ça. Et deux westerns sur France 3, jeudi prochain à 13h50, Les Grands Espaces de William Wyler avec Gregory Peck, Carol Baker et Chuck Connors. Chuck Connors, vous connaissez quand même, quoi.
Non, là.
Manix.
Ah.
Et
ah, mais oui, Manix.
Vendredi à 13h50, l'homme qui n'a pas d'étoile de Robert Wise, encore avec Kirk Douglas, William Campbell, Jane Crane et Claire Trevor. Et ce sera tout pour aujourd'hui et pour l'année d'ailleurs.
Wouhou! Bah oui, parce que pour le coup.
Mais pour le coup, samedi prochain, ce sera jour de Noël et samedi d'après, ce sera jour de l'an. Donc,
On sera carpette, ouais.
Vous supputez que nous ne serons pas là.
On sera pas en état. Non,
peut-être
ça, c'est
que
clair.
Sushi sera là, peut-être.
Non, moi, absolument pas.
D'accord, non plus.
Non mais tu sais que si tu parles pas dans le micro, on t'entendra pas. Thomas, peux-tu faire un résumé pour ceux qui ont pris notre téléachat en cours de route, je te prie ?
Bien sûr, nous avions un prince des voleurs, des zombies aux heures sup, une liste de lectures pour les fêtes, du sud-coréen implacable, un réalisateur de cinéma bis, un enfoiré fan de tuture, Scorsese à la télé, des indiens et des portugaises. Mais heureusement, l'esprit de Noël était bien là grâce à du sport. Mais on a eu du cul.
Non d'une houppelante vampire, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver des chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides. Laissez nos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr, sans accent ni tiré, supplementweekend.fr. Vous y retrouverez notamment une histoire absolument ébouriffante sur l'expertise judiciaire en ADN. Qu'il ne faut pas prendre au premier degré et un cabinet d'avocats américain qui analyse les comics de super-héros sur le point de vue juridique. C'est étonnant.
Ah bon ?
Law and the Multiverse, Super-Hero, Super-Villain and the Law. Et c'est à lire, c'est vraiment étonnant, ça marche super bien. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Alors il est super beau le micro pour les rappeurs, mais personnellement, vu comme ça pop, c'est peut-être le truc à ne pas prendre. Je préfère finalement le micro habituel, pas le super beau, comme quoi vous voyez, micro de crooner, ça me va pas. Dans le prochain épisode, on sera en 2011, rendez-vous donc dans 3 semaines, même heure, même fréquence, ciao, bye bye, bonne fête!
Salut!
Soyez-vous bien, ciao, bye bye!